Face à la contre-offensive soviétique devant Moscou en décembre 1941, Hitler, par sa directive numéro 39 du 8 décembre 1941, avait refusé, contre l'avis de ses généraux, toute retraite. Je cite « L'armée ne doit pas faire un seul pas en arrière. Chaque homme doit combattre là où il se trouve. » Sans doute, cette farouche volonté de tenir a-t-elle évité le pire à la Wehrmacht ? Car à partir du 20 février 1942, l'offensive soviétique marque le pas. L'hiver est plus glacial que jamais, jusqu'à 30-35 degrés en dessous de zéro. Allemands comme Russes souffrent et sont épuisés. Le front finit par se stabiliser en attendant le retour des beaux jours. Hitler est plus persuadé que jamais de la supériorité de son génie militaire sur ses généraux. Et son autoritarisme ne peut que s'en trouver renforcé face à eux. Il a d'ailleurs révoqué ceux qui plaidaient pour une retraite. Walther von Brauchitsch, le chef du haut commandement de l'armée de terre, a été, le 19 décembre 1941, relevé de ses fonctions par Hitler qui décide de ne pas le remplacer. Désormais, c'est lui-même qui assumera ses fonctions. Même Heinz Guderian a été limogé le 26 décembre 1941 pour avoir opéré un mouvement de repli. Le bilan de l'opération Barbarossa au 28 février 1942 est cependant très lourd pour la Wehrmacht. 202 251 morts, 725 642 blessés, 46 511 disparus, sans compter les pertes des alliés italiens, roumains et hongrois. De son côté, si l'armée rouge commence à se reconstituer grâce notamment à l'aide américaine au titre du prébail, elle ne peut plus se permettre les terrifiantes pertes humaines et territoriales qu'elle a subies en 1941. 1 500 000 morts, 4 millions de prisonniers, plus de 1 500 000 km² de territoire occupé. Avec l'arrivée du printemps et du dégel, Hitler doit fixer les objectifs de sa prochaine offensive. Pour une fois, il est réaliste et sait que son armée ne pourra pas rééditer une offensive généralisée comme en juin 1941. Et ses regards se tournent vers le sud, vers la conquête des champs pétrolifères du Caucase. Mais ce faisant, il doit bien se rendre compte qu'il a perdu la partie, que jamais la Russie ne serait entièrement conquise. C'est d'ailleurs le sentiment qu'en retire son chef d'état-major adjoint de l'armée de terre, le général Franz Halder, qui, prenant connaissance des plans d'Hitler pour 1942, en déduit que celui-ci ne croit plus à la défaite des Russes. Par sa directive numéro 41 du 5 avril 1942, Hitler expose l'objectif de son offensive de printemps dont le nom de code est « Plan bleu », à savoir « s'emparer des puits de pétrole du Caucase ». À cette fin, le groupe d'armée sud est divisé en deux. Le groupe A, composé de la 17e armée et de la 1ère armée blindée, devant prendre le contrôle du Caucase, protégé sur son flanc nord par le groupe B, composé de la 6e armée et de la 4e armée blindée, lequel doit établir une ligne de défense sur le Don et la Volga jusqu'à la région de Stalingrad, là où la distance entre les deux fleuves est la plus courte. À cette date, la ville de Stalingrad n'est alors qu'un objectif secondaire. Mais les Allemands n'ont plus les moyens humains d'assurer seuls cette offensive, et ils doivent faire appel à leurs alliés. Ce sont ainsi 52 divisions roumaines, hongroises, italiennes, slovaques et même espagnoles qui participeront à l'exécution du plan bleu, même si les généraux allemands ne comptent que modérément sur ces forces. C'est le 28 juin 1942 que le groupe d'armée A commence l'offensive en direction de la ville de Voronej, autre nœud ferroviaire important, suivi le 30 juin par le groupe d'armée B en direction du sud pour occuper le bassin du Donetsk et atteindre le cours inférieur du Don. La progression des Allemands est rapide. Voronej est prise le 6 juillet, suivie par la ville de Rostov-sur-le-Don le 24 juillet. Mais ce que les Allemands ignorent, c'est que le maréchal soviétique Semyon Timoshenko, qui dirige le front sud-ouest, a adopté une nouvelle stratégie. En réalité, l'armée rouge se dérobe et bat en retraite pratiquement sans combattre pour éviter de se laisser encercler comme l'année précédente. Et dans les vastes steppes et plaines du sud de la Russie, du Donetsk à la Volga, l'espace cédé n'a pas la même importance qu'en Europe occidentale ou centrale. Hitler, également encouragé par les défaites soviétiques à la seconde bataille de Kharkov fin mai, puis par la prise de la péninsule de Kerch et du port de Sébastopol en Crimée début juillet, est persuadé que, je cite, « les Russes sont finis », comme il l'annonce le 15 juillet au général Halder. Hitler voit-il déjà ses armées du front russe rejoindre les Japonais jusqu'au golfe Persique via l'Iran, ou encore faire leur jonction avec l'Afrique à corps de Rommel via l'Irak et la Palestine? Des rêves chimériques. Toujours est-il que, persuadé de remporter rapidement la victoire sur les Soviétiques, le Führer va prendre une décision qui pèsera lourd sur la suite des opérations. Le 23 juillet, par sa directive numéro 45, il modifie le plan bleu, rebaptisé depuis le 30 juin Opération Braunschweig, en imposant désormais deux objectifs, à savoir, pour le groupe d'armée A, prendre le contrôle du Caucase et les champs pétrolifères de Bakou, c'est l'opération Edelweiss, et pour le groupe B, occuper la ville de Stalingrad, qui devient donc un objectif tout aussi important que le Caucase, c'est l'opération Frischreier. Stalingrad, l'actuel Volgograd et qui s'appelait Tsaritsyn jusqu'en 1925, était alors le principal centre industriel soviétique. Une ville de 600 000 habitants, s'étendant sur une soixantaine de kilomètres le long de la rive droite de la Volga. Elle était aussi un important nœud ferroviaire et fluvial contrôlant l'accès aux champs pétrolifères du Caucase. Et c'est par la Volga qu'arrive une partie de l'aide matérielle américaine. Et surtout, sur le plan psychologique, Stalingrad, c'est la ville de Staline. Elle porte son nom depuis que celui-ci l'a reprise aux Russes blancs en janvier 1920. Mais la décision d'Hitler est une erreur stratégique désastreuse. Car les Allemands n'ont plus les moyens matériels et humains de mener à bien ces deux offensives. Alors surtout qu'en même temps, Hitler a retiré du groupe d'armée sud plusieurs divisions pour les envoyer soit sur le front de Leningrad, soit en France où il craint un débarquement allié. En outre, Hitler a détaché la 4e armée blindée du groupe d'armée B pour l'envoyer rejoindre le groupe d'armée A et participer à la conquête du Caucase aux côtés de la 17e armée et de la 1ère armée blindée. La 6e armée du général Friedrich Paulus se retrouve donc seule pour se lancer à l'assaut de Stalingrad. Elle comprend certes 270 000 hommes, mais ceux-ci sont à pied et sa logistique est largement hypotractée avec 25 000 chevaux. Paulus est encore retardé dans sa progression vers Stalingrad par le manque d'approvisionnement en carburant, la priorité étant donnée au groupe d'armée A. Ces retards vont laisser le temps aux Soviétiques de préparer leur défense de Stalingrad, que Staline a ordonné dès le 12 juillet, interdisant toute retraite par son célèbre ordre numéro 227 du 28 juillet 1942, je cite, « pas un pas en arrière ». En attendant, au sud, la première armée blindée, commandée par le général Ewald von Kleist, occupe la ville de Maïkop, sur les contreforts des monts du Caucase, le 9 août. Mais ces puits de pétrole ont été sabotés par les soviétiques. Et l'offensive de Von Kleist s'essouffle le 25 août devant Mosdok, en Ossétie du Nord, à 80 km de Grozny. Il n'atteindra jamais Bakou et ses puits de pétrole. Tandis que les fantassins de la 17e armée sont, quant à eux, bloqués devant la ville de Touapsé. En septembre, l'offensive vers les villes de Grozny et de Bakou est définitivement stoppée. Seul exploit sportif, mais sans intérêt stratégique, le 21 août, des Allemands des divisions de montagne plantent le drapeau à croix gammée au sommet de l'Elbrouz, à 5642 mètres d'altitude. La réalité est que fin juillet, Hitler, se rendant compte de son erreur, a encore changé d'avis et a dérouté à nouveau la 4e armée blindée en direction de Stalingrad pour soutenir la 6e armée de Paulus, alors pourtant que les 1ère armée blindée et 17e armée ne peuvent à elles seules prendre les puits de pétrole du Caucase. La réalité est qu'à cette date, la Wehrmacht n'a pas les moyens de conquérir à la fois le Caucase et les vallées du Don et de la Volga jusqu'à Stalingrad. Et pour finir, ces deux objectifs lui échapperont. La réalité est qu'Hitler perd de plus en plus le sens des réalités en voulant tout centraliser entre ses mains et s'investir toujours plus avant dans la conduite des opérations militaires, alors que son quartier général se trouve en Ukraine, près de la ville de Vinnytsia, à 1500 km du front. Staline a d'abord cru que l'offensive allemande dans le Caucase n'était qu'une diversion pour masquer une offensive vers Moscou. Mais fin juillet, il comprend quels sont les véritables objectifs d'Hitler et il nomme le général Andrei Yeremenko pour défendre le front de Stalingrad, flanqué, comme c'était la règle, d'un commissaire politique du nom de Nikita Khrushchev, qui, une douzaine d'années plus tard, succédera à Staline à la tête de l'Union soviétique. Le 23 août, Paulus atteint la Volga à 25 km au nord de Stalingrad et, pour pouvoir se consacrer tout entière à l'offensive sur la ville, sa 6e armée est couverte sur ses flancs par la 2e armée hongroise au sud de Voronej, la 8e armée italienne sur la boucle du Don et les 3e et 4e armées roumaines à l'ouest de Stalingrad. Mais ces armées sont pauvrement équipées, avec des armes de mauvaise qualité, sans blindés modernes ni artillerie lourde, et leurs hommes sont peu motivés alors qu'ils doivent tenir de larges secteurs du front. Ce même 23 août, la Luftwaffe effectue son premier raid de terreur sur Stalingrad. 1000 tonnes de bombes sont larguées dans la journée par environ 600 appareils, causant 40 000 morts parmi la population civile qui n'a pas encore été évacuée. D'autres raids suivront jusqu'au 6 septembre. Le 27 août, Staline a appelé auprès de lui le maréchal Georgi Yukov, le sauveur de Moscou, comme adjoint au commandant suprême, avec pour mission de sauver Stalingrad, qui ne doit pas tomber aux mains des Allemands. Mais le 2 septembre, la 6e armée de Paulus et la 4e armée blindée du général Hermann Hoth font leur jonction, encerclant la ville de Stalingrad. Et le 7 septembre, les Allemands pénètrent dans la ville qui n'est alors défendue que par la 62e armée soviétique, avec à sa tête, à partir du 12 septembre, le général Vassili Tchouïkov. Son armée est quasi isolée. Elle ne peut être ravitaillée que par bateau à travers la Volga sous le feu des Allemands. Et elle devra supporter pendant près de 3 mois l'assaut ininterrompu des forces allemandes. Tchouïkov, dont le quartier général se trouve parfois tout près des lignes ennemies, ne quittera jamais la ville et recevra après la bataille le titre envié de héros de l'Union soviétique. La guerre va alors prendre un nouveau visage, caractérisé par des combats de rue dans une ville réduite en ruines par les raids de la Luftwaffe. Ce qui, paradoxalement, avantage les soldats russes de la 62e armée. En effet, chaque immeuble devient une forteresse farouchement défendue et à l'abri de laquelle des tireurs d'élite, les snipers, tendent des embuscades mortelles aux Allemands. On se bat quasiment au corps à corps pour un pâté de maison, pour une usine, voire pour un étage, un escalier, une cave. Certains endroits, comme le quartier de la gare, changent plusieurs fois de main. Dans ce contexte, les chars d'assaut allemands, inadaptés aux combats de rue, ne se déplacent qu'avec difficulté au milieu des ruines et deviennent vulnérables aux mines et aux cocktails Molotov. La proximité des combattants des deux camps empêche la Luftwaffe d'intervenir avec efficacité. Stalingrad est la première bataille urbaine de l'histoire. Une guerre souvent invisible, où les soviétiques se déplacent par les égouts dont ils connaissent le plan. C'est la guerre des rats. Pendant les mois de septembre et d'octobre, les Allemands continuent néanmoins à progresser dans la ville, mais avec difficulté, et au prix de lourdes pertes. Or, Paulus ne reçoit pas de renfort, malgré ses demandes répétées auprès d'Hitler. Le 25 octobre, il a cependant promis à Hitler que Stalingrad serait entièrement conquise le 10 novembre plus tard. Qu'en est-il à cette date ? Certes, les Allemands tiennent alors 90% de la ville. Mais Tchouïkov et ses hommes de la 62e armée continuent à s'accrocher sur une dizaine de kilomètres de berges de la Volga, une mince bande de moins de 2 km de profondeur par endroit. Ils tiennent plus ou moins en partie des usines du nom de Barricade ou Octobre Rouge. Et si Tchouïkov est dans une situation critique, les Allemands sont tout aussi épuisés. Sur les 9 divisions présentes, 5 ont perdu leur valeur offensive. Sans renfort de troupes fraîches, Paulus ne parvient pas à venir à bout des défenseurs de Stalingrad, ni même à progresser. Le 18 novembre, les combats connaissent une pause relative. Paulus l'ignore encore, mais les Soviétiques se préparent à lancer le lendemain une vaste contre-offensive dont le nom de code est Opération Uranus, planifiée depuis le 12 septembre par Yukov et par le chef d'état-major général, le maréchal Alexandre Vassilievski. C'est une vaste mesure d'encerclement de Stalingrad qui est prévue pour obliger la 6e armée à battre en retraite en quittant la ville. Le 19 novembre, les Soviétiques déclenchent l'opération Uranus avec 1 134 800 hommes, 13 451 canons, 1115 avions, 894 chars d'assaut, dont le T-34, considéré comme l'un des meilleurs chars de la guerre. Ils se lancent à l'attaque du point faible du dispositif allemand sur ses flancs, les troupes alliées de l'Axe. C'est la 3e armée roumaine, au nord-ouest de Stalingrad, qui reçoit le premier choc. Et très vite, des divisions entières se débandent. À la fin de la journée, il n'y a même plus de 3e armée roumaine. 27 000 de ces hommes ont été faits prisonniers. Le 20 novembre, c'est le flanc sud, tenu par la 4e armée roumaine, qui est attaqué à son tour. Les Roumains sont vite submergés par la marée russe, malgré les contre-attaques de la 29e division de Panzer. L'objectif des Soviétiques est la ville de Kalach, à 60 km à l'ouest de Stalingrad, point de passage obligé sur le Don. Si leurs troupes venant du nord et celles venant du sud parviennent à y faire leur jonction, ce sont toutes les forces allemandes de Stalingrad qui se trouveront encerclées. La jonction des armées russes à Kalach est effective le 22 novembre. La 6e armée et un corps d'armée de la 4e armée blindée sont prises au piège dans ce qu'on appellera le Kessel de Stalingrad, le chaudron. Plus de 250 000 hommes dans une zone de 50 km de large sur 40 km de long. Quelle décision prendre ? Évacuer Stalingrad en abandonnant sur place tout le matériel et environ 15 000 blessés ? Ou bien tenir sur place au risque de perdre toute une armée ? Hitler a été prévenu le 23 novembre alors qu'il se reposait à Berchtesgaden. Paulus lui a demandé une complète liberté d'action afin de pouvoir se retirer de Stalingrad en tentant une percée à travers les lignes soviétiques. Mais, comme l'année précédente devant Moscou, le Führer ne veut pas entendre parler de retraite et donne à Paulus l'ordre formel de tenir à tout prix ce qu'on appelle désormais la forteresse Stalingrad. Hitler a promis à Paulus un ravitaillement aérien que Göring a affirmé pouvoir réaliser avec sa Luftwaffe. Mais la 6e armée a besoin de près de 700 tonnes de ravitaillement par jour. Göring en a promis 550 tonnes. Mais ce pont aérien va vite se révéler être un désastre. En réalité, les avions de transport Junkers 52, assaillis par la chasse soviétique et une DCA puissante, ne parviendront au mieux à fournir qu'à peine 300 tonnes par jour, et ce chiffre tombe vite en décembre à moins de 50 tonnes. En moyenne, ce ne seront que 94 tonnes par jour de ravitaillement qui pourront être acheminées par la voie des airs. Il faut donc venir à l'aide de la 6e armée en rompant l'encerclement de la ville. Et pour cela, le 25 novembre, Hitler fait appel au maréchal Erich von Manstein, l'auteur du plan d'invasion de la France dont j'ai parlé à l'épisode 4. Celui-ci élabore l'opération Winkergewitter, tempête d'hiver, pour atteindre Stalingrad par le sud-ouest et relever la 6e armée. L'opération de sauvetage commence le 12 décembre. Au début, von Manstein parvient à progresser. Et le 19, il se rapproche de moins de 50 km du front de Stalingrad. Il suffirait que de son côté, Paulus effectue une sortie pour le rejoindre à mi-chemin. Mais ce dernier a reçu l'ordre formel d'Hitler en personne de ne pas abandonner le terrain. Il n'a pas le tempérament d'un Guderian pour pouvoir aller à l'encontre d'un tel ordre. Et malgré l'insistance de von Manstein, il ne bouge pas. Von Manstein fait le maximum, mais il ne peut franchir seul ses 50 derniers kilomètres. En effet, son flanc nord est menacé par les Soviétiques, qui, dès le 20 décembre, ont percé les lignes italiennes et roumaines qui ont assuré la défense. Il y a pire pour les Allemands. C'est toute l'armée du Caucase qui se trouve en danger d'être encerclée et qui doit faire rapidement retraite. Von Manstein ne peut pas espérer recevoir des renforts. Et Hitler s'obstine à interdire tout mouvement de retraite à la 6e armée. Le 23 décembre, l'opération Tempête d'hiver est un échec. Von Manstein doit se retirer. Stalingrad ne sera pas délivré. Fin décembre, la situation est désespérée pour les hommes de la 6e armée qui se retrouvent sans vêtements adaptés au terrible hiver russe, sans matériel, sans munitions et surtout sans nourriture. Tous les chevaux ont été mangés et la ration quotidienne de pain, qui n'était que de 100 grammes par jour, tombe à 60 grammes. Le 8 janvier 1943, le général Konstantin Rokossovski, qui vient d'être chargé par Staline de nettoyer définitivement la poche de Stalingrad, fait à Paulus une offre de reddition aux conditions acceptables. Mais Paulus, toujours obéissant aux ordres d'Hitler, refuse. Ensuite de quoi, le 10 janvier, Rokossovski déclenche l'opération Cold Saw. Un déluge de feu s'abat sur les forces allemandes et en 6 jours, la poche allemande est réduite de moitié. Le 21 janvier, le dernier terrain d'aviation allemand à Gumrak est aux mains des soviétiques qui ont coupé en deux la poche des défenses allemandes. Paulus a une fois de plus demandé à Hitler l'autorisation de se rendre en signalant l'épuisement de toutes ses réserves, mais le Führer continue à refuser toute capitulation. Le 30 janvier, Paulus l'informe qu'il ne peut plus tenir. Et pour toute réponse, Hitler promeut au grade supérieur plus d'une centaine d'officiers de la 6e armée et nomme Paulus maréchal afin de l'inciter à se suicider car jamais dans l'histoire militaire allemande, un maréchal n'a été fait prisonnier vivant. Mais Paulus en a décidé autrement. Et le 31 janvier, il se rend au jeune lieutenant Féodor Yelchenko, qui se trouvait avec son char d'assaut à proximité de son quartier général. Les derniers combattants allemands se rendent le 2 février 1943. La bataille de Stalingrad est terminée. Les 91 000 hommes ayant survécu au siège partent à pied, sous 37 degrés en dessous de zéro, en direction des camps de Sibérie. Guère plus de 5 000 d'entre eux retrouveront l'Allemagne après la fin de la guerre. Certains, pas avant 1954. Lorsqu'il apprend la nouvelle de la reddition de Paulus, Hitler est furieux. Non pas tant d'apprendre la destruction de toute une armée et la perte de ses hommes les plus aguerris. Non. Ce qui le met dans une rage folle est que Paulus ne se soit pas suicidé comme tout maréchal allemand aurait, selon lui, dû le faire. Pendant des semaines, la presse en Allemagne présentait Stalingrad comme pratiquement conquise. Mais maintenant, Hitler ne peut pas cacher cette défaite. Le communiqué du haut commandement allemand en date du 3 février donne sa version du désastre. Je cite « La bataille de Stalingrad a pris fin. Fidèle à son serment de combattre jusqu'à son dernier souffle, la 6e armée, sous le commandement exemplaire du maréchal Paulus, a succombé sous l'assaut d'un ennemi supérieur en nombre et en raison des circonstances défavorables auxquelles elle a eu à faire face. » Un deuil national de 4 jours est proclamé, pendant lesquels la radio ne diffuse plus que de la musique funèbre. La justification officielle sera que le sacrifice des hommes de la 6e armée a immobilisé de nombreuses forces soviétiques pendant plusieurs semaines, donnant le temps à l'armée du Caucase engagée plus au sud de se replier pour échapper à un encerclement. En ce début d'année 1943, avec le débarquement allié en Afrique du Nord et la défaite de Rommel à El Alamein, le désastre de Stalingrad est un nouveau tournant de la Seconde Guerre mondiale. À partir de cette date, hormis quelques sursauts, les Allemands ne lanceront plus d'offensives et devront se limiter à des actions défensives. C'est la fin du mythe de l'invincibilité de l'armée allemande, même si les Allemands invoquent la défaillance de leurs alliés italiens, roumains et hongrois. Le moral d'Hitler est atteint, et il fera de moins en moins d'apparitions publiques. Pour la première fois, c'est son ministre de la propagande, Joseph Goebbels, qui prononce au Sportpalast le 18 février 1943 le discours anniversaire de l'arrivée au pouvoir d'Hitler. Goebbels appelle alors à la guerre totale, en ne niant pas pour la première fois les dangers auxquels le pays est désormais confronté. Mais nous sommes encore qu'au début de l'année 1943. Et comme l'a dit Winston Churchill dans son discours du 10 novembre 1942, ce n'est pas la fin, ce n'est même pas le commencement de la fin, mais c'est peut-être la fin du commencement.